devient zéro. L'idée d'empire serait incompatible avec l'histoire de France. La nation française, héritière du royaume d'Hélice, se serait construite contre elle, en particulier face aux différentes figures des Habsbourg, de Charles Quint à François-Joseph. Cette hostilité de principe s'inscrit dans la langue française. Verbe du premier groupe, empirer signifie devenir pire, aggraver. L'idée impériale n'appartiendrait pas à la tradition française. Affirmation péremptoire et erronée. En Provence, vieille terre d'empire, on l'oublie trop souvent, dans les belles cités d'Aix et d'Orange, se développe l'association militante et culturelle Ténessoun. Son site annonce qu'elle promeut une identité reposant sur le triptyque suivant Provence-France-Europe. Ce sympathique mouvement sort une revue de belle facture, Ténessoun Mag, qui publie des numéros hors série instructifs et didactiques. Intitulé Empire, le hors-série de février 2024, 4 euros, à commander sur le site éponyme, aborde le thème de l'Empire. Il est plaisant que de jeunes militants s'approprient cette idée qui parcourt en filigrane l'histoire de France. On se focalise trop sur l'aspect juridique de l'émancipation royale française par rapport à l'héritage mémoriel carolingien, en oubliant la bigarrure institutionnelle, sociale et économique constitutive de l'ancienne France. Certes, les Capétiens ont réussi là où les Hohenstaufen ont échoué. Toutefois, cela n'empêche pas, bien au contraire, que la France est un empire, écrit avec raison Aurélien Lignereux dans l'Empire de la paix de la Révolution à Napoléon quand la France réunissait l'Europe, passé composé 2023. Tel est le constat d'évidence partagé en 1789, tant y était frappante la diversité des populations que les rois avaient réunies et soumises à une souveraineté qui n'admettait nul supérieur en matière temporelle, le roi étant empereur en son royaume, mais qui pouvait s'accommoder de l'hétérogénéité des coutumes et qui devait même respecter certains privilèges garantis par les actes de réunion. Dans un précédent essai, L'Empire des Français, 1799-1815, 1. La France contemporaine, le seuil collection.histoire 2014, le même auteur, spécialiste de l'œuvre napoléonienne, prévenait qu'il serait réducteur de ne voir dans les entreprises de Napoléon que la consécration d'une ambition personnelle s'enracine dans le pays. C'est faire peu de cas de l'aspiration au XVIe et XVIIe siècle à une translatio imperii en faveur de la France, rêve que traduisait un messianisme dynastique et un providentialisme chrétien. Aurélien Lignereux se réfère bien évidemment à l'étude capitale, novatrice et magistrale d'Alexandre Yali Aran, Les Lys et le Globe, messianisme dynastique et rêve impérial en France au XVIe et XVIIe siècle, Champvallon 2000. L'idée impériale n'est pas étrangère au monarque français. Elle persiste d'ailleurs dans l'inconscient politique collectif, d'où le tropisme européen présent autant chez les nationalistes que chez les socialistes, sans parler de certains gaullistes, des démocrates chrétiens, des écologistes et des régionalistes. Il est dommage que les auteurs de ce hors-série n'évoquent pas cet ouvrage précieux. À la suite du testament d'un Européen, de Jean de Brême, Julien Langella revient sur la conquête hispanique de l'Amérique. Il formule pour l'occasion un hispanisme de langue française nullement incongru. La Franche-Comté fut longtemps une possession des rois d'Espagne. Rédacteur de plusieurs articles dans ce numéro, Estève Claret rappelle qu'au fondement de l'Empire se trouve un principe supérieur, qu'il soit spirituel, sacré, transcendant, métaphysique ou messianique. L'Empire ne se contente pas d'assurer le bien commun des communautés politiques sous son autorité. Il agit au nom d'un principe qui lui est supérieur et qui inscrit ces dernières dans un destin. L'Empire englobe dans une unité nécessaire et limitée les multiples variétés qui s'expriment en communauté incarnée. maintenant Saint-Empire romain germanique, le pouvoir du centre impérial sur ses périphéries, Estève Claret s'intéresse à l'origine territoriale du Sacrum Imperium, qui correspond, souligne-t-il, à la réunion de trois couronnes, la trias des royaumes de Germanie, d'Italie et d'Arles-Bourgogne. Eux-mêmes sont composés de duchés dits ethniques, Stammesherzogtümer, car ils sont le fruit de regroupements linguistico-culturellement cohérents, Bavière, Franconie, Saxe, Souabe, etc. En lecteur avisé de Francis Parker Yoquet, de Guillaume Fay et de Julius Evola, Tristan Rochel explique que l'Empire chanté par Dante est une institution surnaturelle, à vocation universelle, au même titre que l'Église, par exemple. Il se veut être le reflet de l'ordre cosmique, une image du royaume céleste. D'origine surnaturelle, il occupe la fonction de centre universel, de centre de gravité d'un espace civilisationnel. Dommage, cependant, que le poison dit universel s'insinue partout. À l'ère postmoderniste, ne serait-il pas cohérent d'envisager l'idée impériale dans une approche pluriverselle ? La notion de plurivers convient en effet mieux à la perception révolutionnaire conservatrice d'Empire, surtout aujourd'hui, période instable propice à la résurgence des impérialismes. Les impérialismes ne se confondent pas avec les empires d'origine traditionnelle. Hubert R. souligne que le terme « empire » est lui-même à double tranchant. Il peut désigner tout à la fois un ensemble de peuples que relient des facteurs communs, culture, religion, ethnie, et gouverné par un pouvoir central. Ou bien il peut se rapporter à une volonté de domination servie par une prétention à l'universalité au nom d'une doctrine exclusivement spirituelle, idéologique ou économique. Quant à Tristan Rochel, il bouscule volontiers le lecteur par un volontarisme énergique et parfois provocateur. Le seul droit qui vaille, c'est celui qu'offre la force. Une terre n'appartient à un peuple que tant qu'il est capable de la tenir en sa possession. Si un peuple étranger l'envahit et parvient à s'en rendre maître, alors celle-ci devient sienne. Et peu importe à cet égard depuis combien de temps son prédécesseur l'occupait. Les véritables frontières d'un peuple sont celles posées par sa volonté de conquête. Ses lois, qui sont celles de la vie, sont impitoyables, mais sont les seules qui vaillent. Pleurnicher à ce propos ne les changera pas. L'histoire est un cimetière de peuples vaincus. Féroce et terrible constat. Ne serions-nous pas les ultimes veilleurs d'une civilisation désormais défunte qui rend l'esprit impérial totalement inaudible et incompréhensible ? Quant à savoir si cet empire européen plus qu'embryonnaire doit s'étendre selon la formule consacrée de Reykjavik jusqu'à Vladivostok, la réponse est finalement secondaire. Le plus important n'est-il pas en priorité de restaurer sa souveraineté intérieure ? En ces temps troublés d'hypertrophie individualiste, cette reconquête sur soi s'avère plus compliquée, mais aussi plus impérative que jamais. Salutations flibustières.